Alors, on a entendu les deux témoignages. Hein. On le sent vraiment, cette envie de devenir propriétaire. Ce désir de propriété est très ancré hein, chez les Français. On dit souvent que les Français ont une pierre dans le ventre. Ça a été confirmé par une récente enquête hein, de Procivis Harris Interactive et de la Fondation Jean Jaurès, ou encore une étude des Français à la propriété. Alors, question pour Robin Rivaton, qui est à distance. Cette envie, on la sent également chez les jeunes. Cependant, le taux de propriétaires n'a pas beaucoup évolué en 30 ou 40 ans. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon vous, Robin ? Est-ce qu'on peut faire un comparatif ? Que peut-on observer ailleurs ?
Oui, je pense qu'on fait face à une crise du logement. C'est suffisamment répété pour que on puisse désormais croire à cette malheureuse prophétie, et on fait encore plus face à une crise du logement abordable. Aujourd'hui, quand on regarde les 20 dernières années en France, on a eu une très forte production de logements qui a permis de masquer plusieurs des problèmes qui se sont creusés dans l'intervalle. Et le premier d'entre eux, c'est un problème qui est lié à l'accès à la propriété. Aujourd'hui, en 2023, donc c'est la dernière statistique qu'on a au 1er janvier 2024, donc à fin 2023, on avait un taux de Français propriétaires de leur résidence principale, un peu en dessous de 57%, qui était identique au taux de 2006. Donc on a connu la période des taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne, puisque les taux d'intérêt commerciaux hein, sur le prêt à 25 ans ont été jusqu'à descendre en dessous de 1%, et nous n'avons pas réussi collectivement en tant que pays à faire augmenter la part des propriétaires de leur résidence principale. Je démystifie et je tue tout de suite l'idée qu'il y a des gens qui ne seraient pas propriétaires de leur résidence principale, mais qui auraient pu acquérir un bien, notamment en location ailleurs, et qui le loueraient. C'est le cas assez typique, souvent évoqué, du jeune cadre parisien qui achète un Pinel à Toulouse, dans le sud de la France. Le chiffre des ménages qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale mais qui sont propriétaires d'un autre bien immobilier est stable, lui aussi à 7%. Donc tout ça mis bout à bout, et surtout quand on le regarde dans une comparaison internationale, nous interroge. Parce que vous l'avez dit, la France était réputée pour être un pays où on avait beaucoup de propriétaires. Hein. C'était un discours qu'on entendait beaucoup au tournant des années 2000-2005. On disait que les Français étaient très propriétaires. Aujourd'hui, quand on regarde froidement les statistiques de l'OCDE, la France est le cinquième pays avec le plus faible taux de propriétaires, de ménages propriétaires de leur résidence principale. Derrière nous se situe l'Allemagne, qui est très très bas pour plein de raisons historiques, notamment du fait de la réunification. L'Autriche, qui est très particulier parce que vous avez une ville qui représente quasiment un quart de la population et qui a 70% de logement social en son sein. Vous avez la Suisse, qui est aussi une situation assez particulière puisque le régime fiscal fait qu'il ne faut jamais devenir propriétaire. Et puis après, on se retrouve juste à quelques points derrière les Danois, et on a été rattrapé par beaucoup d'autres pays. Donc aujourd'hui, on voit bien que la France n'est plus un pays de propriétaires de sa résidence principale. Ça va à l'encontre du désir des ménages. C'est pas un choix qui aurait été volontaire, hein. C'est un choix qui est subi, très profondément subi. Et ça doit nous interroger, parce que les conséquences de cette inaccessibilité de la résidence principale, qui encore une fois ont été masquées par l'augmentation du parc social, qui ont été masquées par la forte construction dans le pays, et donc qui ont permis d'en masquer les effets pervers. Mais les effets pervers du fait que les ménages ne sont pas propriétaires sont nombreux, et j'en cite juste un, qui permettra d'ouvrir le débat pour la suite. Mais on va vers des réformes des retraites qui vont faire que le taux de remplacement, c'est-à-dire la comparaison entre la pension de retraite et le dernier salaire, va diminuer. On est aujourd'hui autour de 70%. On a des réformes qui vont l'amener en dessous de 60%. Et c'est des réformes qui, de mon point de vue, vont plutôt dans le bon sens. Mais il faut bien avoir en tête que lorsqu'un ménage est locataire de sa résidence principale et qu'il voit une baisse de ses ressources de 30 ou 40%, ça veut dire que son budget logement, qui pouvait déjà représenter en moyenne 25 ou 30%, lui va monter à quasiment 50% de ses revenus et de ses revenus disponibles du ménage. Et donc, ça fait vraiment quelque chose de très puissant. Et donc, c'est ce qu'on doit avoir en tête aujourd'hui, c'est ce rapport à la propriété qui est un rapport qui est encore très fort dans notre pays et qu'on n'arrive plus à satisfaire depuis maintenant près de 18 ans.
Eh bien, merci beaucoup, Robin. Alors, David, peut-être une réaction. Il y a eu plein de choses très intéressantes qui ont été dites par Robin. Cette envie, elle est là. En revanche, on voit que ce constat est subi par les Français. 57%, hein, c'est le chiffre à retenir, 57% de propriétaires. Ce sont d'ailleurs les derniers chiffres, hein, confirmés par tous les professionnels de l'immobilier, les syndicats. Et c'est vrai, la réforme des retraites qu'évoquait Robin, qui vient un peu chambouler. Votre réaction, peut-être ?
Oui, d'abord, merci à Robin. Robin, pendant cette émission, sera notre grand témoin, donc il sera peut-être amené, évidemment, à intervenir tout au long de l'émission. Moi, ce que je peux dire, la première réaction, c'est de dire qu'effectivement, on a, dans la thématique du jour, d'abord cette notion de crise immobilière, et ensuite, dans la thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est est-ce que c'est encore possible ou souhaitable de vendre des logements sociaux dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure. La crise immobilière, c'est vrai que tout le monde l'évoque. On parle de crise structurelle, conjoncturelle, crise de l'offre, crise de la demande. Bon, enfin, je pense que, au fond, tout peut être additionné. Oui. On a une crise qui est évidemment structurelle, puisque ça fait 5 ans qu'on a une production qui est grosso modo sous-offreuse. On a évidemment une crise qui est conjoncturelle, puisqu'elle est liée à la montée des taux, évidemment, brutale, un resserrement des conditions d'accès au crédit. Bon, voilà, donc c'est à la fois une crise qui est conjoncturelle, qui est structurelle, et puis d'un autre côté, on a une crise de la demande et une crise de l'offre. Mais on a aussi à gérer les effets de la crise de la demande sur l'offre. C'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des locataires qui ne peuvent pas devenir propriétaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent dans leur logement. Et évidemment, derrière, on a une offre qui se rétracte. Bon. Et puis la deuxième partie de notre thématique aujourd'hui, c'est de dire... Et vous l'avez posé, on a 2,6 millions de personnes qui attendent un logement social en France.
Donc, c'est du jamais vu, ça.
Bah écoutez, en tout cas, le chiffre grossit d'année en année. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à vendre du logement ? Puisque, visiblement, nous n'en avons pas assez. À ça, d'abord, je réponds. D'abord, c'est une question qui est évidemment légitime. Je réponds deux choses. La première, c'est que si le logement social ne permet pas à des gens de devenir propriétaires à revenus modestes. Mais qui le fera ? C'est une question, de mon point de vue, de justice sociale. Sinon, on va vers une fracture, une fracture véritablement sociale importante. Donc je pense que c'est dans la responsabilité des bailleurs, mais aussi de la chaîne de responsabilité complète, c'est-à-dire du bailleur jusqu'au banquier, que de permettre à des gens à revenus modestes de devenir propriétaires. Ça, c'est ma première réflexion. La deuxième réflexion, c'est qu'à aujourd'hui, la vente HLM, enfin la vente sociale, je préfère ce terme, la vente sociale n'est plus une option pour les bailleurs. C'est-à-dire que c'est un moyen de financement du secteur qui est devenu totalement incontournable. C'est un dispositif gestionnaire. Aujourd'hui, un bailleur ne peut pas se passer de la vente sociale. Donc il faut tout mettre en place pour véritablement l'organiser. C'est incontournable. Simplement, c'est dû à deux choses. C'est un désengagement de l'État, qui s'est fait progressivement, mais qui aujourd'hui est complètement constaté. Et puis le deuxième point, c'est évidemment les difficultés qu'ont rencontrées les bailleurs avec l'augmentation des taux, oui, et évidemment des autofinancements qui sont venus s'effondrer. Donc voilà, donc je pense que moi, si vous voulez, la vente, elle est non seulement possible, elle est souhaitable, et même si la crise est là, je crois qu'on a tout intérêt, nous, à nous organiser, et c'est ce qu'on fait notamment au sein de l'ONV, pour encourager, pour rendre effective cette vente sociale, qui pour moi est un acte de justice sociale, et tous les jours, c'est le métier qu'on s'emploie à faire à l'ONV.
Donc la vente est possible et souhaitable, c'est les mots qu'on retient. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions et qu'on y répond sur le chat en direct. Est-ce qu'il y a des questions
Pour l'instant, il n'y a pas de questions.
Ok, n'hésitez pas, en tout cas, on est là pour y répondre. On va passer à la deuxième partie de ce webinaire. Donc, on l'a dit, possible et souhaitable, cette vente de logement social. En revanche, quelles sont les conditions pour réussir un programme de vente sociale ? Quel type de patrimoine aussi ? C'est une question qu'on peut se poser. Quels sont les critères ? Ce sont les points que nous allons aborder tout de suite.